Pantera, I'm Broken. On continue notre revue de presse hebdomadaire du lundi dans Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et donc, un article très intéressant dans latribune.fr intitulé « Drogue, quand l'interdiction fait l'incitation ». Ah, tiens. Alors, c'est pas n'importe qui dit ça. Alors, d'abord, c'est plutôt une question qui se pose plus qu'une affirmation, puisque Pierre Kopp et Milena Spach, qui sont deux chercheurs, alors Pierre Kopp est spécialisé en économie de la drogue. Il avait notamment participé à l'étude Terra Nova là, qui avait été publiée au mois de novembre. Donc Milena Spach, à mon avis, est, alors c'est pas dit, mais plutôt une sociologue ou une anthropologue. Donc en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que l'interdiction ne crée pas elle-même une forme d'incitation sur un certain nombre de consommateurs, alors peut-être pas sur tous. Mais en tout cas, voilà un peu la question que se posent Pierre Kopp et Milena Spach. Et c'est intéressant, puisqu'encore une fois, dans cet article de la tribune.fr, on nous parle des expériences de l'Uruguay, le Colorado, l'État de Washington et on pourrait rajouter l'Oregon, qui ont changé leurs lois. Et ces deux personnes, Pierre Kopp et Milena Spach, s'intéressent ici en particulier à un effet de l'interdiction qui, bien qu'intuitif, n'est pas souvent considéré. L'interdiction ne serait-elle pas en elle-même un facteur d'attractivité pour les jeunes? L'interdiction n'a-t-elle pas, elle aussi, des effets indésirables? Alors, les hypothèses sont celles-ci, alors je vais vous les énoncer. Transgresser l'interdit, donc l'idée que la transgression de l'interdit pourrait être une source de plaisir n'est pas nouvelle. Au-delà de la théorie freudienne, la perception positive de l'interdit par le consommateur de drogue pourrait être rapprochée de la théorie du comportement expressif élaborée par Hillman en économie politique. Dans son étude des comportements de vote, Hillman note que certains individus vont, entre plusieurs options, choisir celle qui permet d'affirmer leur appartenance à un groupe plutôt que d'autres options plus favorables à leur intérêt particulier. Donc il y a peut-être une utilité identitaire. Alors, cet attrait pour l'interdit peut aussi être compris par l'utilité identitaire que revêtirait la consommation de drogue pour certains. Akerlof et Cranton ont, au croisement de la sociologie, de l'anthropologie et de la psychologie, identifié certaines sphères, comme l'école, où chaque individu appartient à un groupe bien défini et où il est très coûteux de changer de groupe. Chacun a alors intérêt à s'ancrer dans son propre groupe en adoptant les attitudes. La consommation de drogue peut être constitutive de l'identité d'un groupe. Ensuite, des consommateurs qui sont cachés, parce que face à l'absence de données sur la perception de la transgression par les consommateurs de drogue, l'équipe de Pierre Kopp et Milena Spach a réalisé une enquête de terrain. La méthode boule de neige leur a permis d'entrer en contact avec des individus cachés, entre guillemets, dont il a fallu obtenir la confiance. Donc un échantillon assez faible hein, au départ, 59 consommateurs de cannabis et 57 consommateurs de cocaïne. Ont pu être interrogés, ont accepté d'être interrogés. Cet échantillon est une première étape pour tester des intuitions théoriques sur le terrain avant d'envisager un travail de plus grande ampleur. Et donc, à partir des réponses des consommateurs, une évaluation contingente a permis de déterminer un niveau de coût et de bénéfices associés à des facettes non marchandes de la consommation de drogue. Le questionnaire s'intéressait par exemple aux coûts associés à la probabilité d'être interpellé ou d'être victime de violence. Donc voilà un peu les questions qu'ils ont posées. Donc combien de minutes supplémentaires êtes-vous prêt à vous déplacer pour faire votre achat de drogue afin d'être certain de n'avoir aucun risque d'être violenté ou afin d'être certain de ne pas vous le faire confisquer ou détruire par la police? Afin d'éviter les risques d'être placé en garde à vue, préféreriez-vous payer plus cher et être livré à domicile plutôt que d'acheter dans la rue? Si oui, combien? Etc, etc. Donc je ne vais pas vous lire toutes les questions, mais bon, on va partir un peu plus dans l'analyse. Donc sans tenir compte du risque de sanction, le coût moyen mensuel que les consommateurs associent à la consommation de cannabis est de 97,70€ et de 193,40€ pour la cocaïne. Plus de 70% des consommateurs sont sensibles au risque d'interpellation pour usage simple et plus de 60% sont sensibles au risque de condamnation. Cependant, les coûts associés à ces risques sont faibles puisqu'ils se situent en moyenne autour de 1,90€ pour les consommateurs de cannabis et de 5,60€ pour les consommateurs de cocaïne. La loi produit donc des surcoûts perçus pour la majorité des consommateurs, mais ceux-ci sont faibles. On peut douter du caractère dissuasif de l'interdiction. Le risque pénal représente un moindre coût aux yeux des consommateurs, car la probabilité d'être interpellé ou condamné est effectivement faible. En relation avec l'échantillon créé pour faire l'étude. Hein. Je pense qu'il faut quand même le préciser, puisqu'on sait quand même qu'en France, il y a une très forte répression et qu'il y en a quand même qui ne passent pas au travers des mailles du filet. Hein. Il faut quand même le rappeler. Alors, sinon, on repart. En effet, lorsque les consommateurs sont nombreux, ils peuvent s'appuyer sur des réseaux d'associations et d'avocats, ce qui rend leur rapport de force avec la police et la justice moins défavorable, un peu, beaucoup moins défavorable, je ne sais pas, enfin, en tout cas, peu défavorable, à mon avis. C'est pas énorme. Un nombre de consommateurs plus élevé réduirait donc le risque d'arrestation et la fermeté des peines pénales. La menace représentée par la sanction serait alors faible. Voilà un peu les discussions à ce niveau-là. Ensuite, la valorisation de la transgression, une réalité contestée. Le bénéfice moyen mensuel associé à la consommation est respectivement de 232,20 € pour le cannabis et de 130,20 € pour la cocaïne, sans tenir compte du plaisir de la transgression. Seulement 14% des consommateurs de cannabis interrogés trouvent un bénéfice à l'interdiction pénale, bien que la grande majorité des consommateurs n'associent aucun plaisir au fait de transgresser. Le plaisir de ces 14% de consommateurs est tel que la moyenne du bénéfice associé à la transgression atteint pour l'ensemble de l'échantillon 22 € par mois. Parmi les consommateurs de cocaïne, 42% valorisent la transgression, donc c'est plus important que pour le cannabis. L'hétérogénéité des perceptions est telle que le bénéfice supplémentaire est moyen est de 31,40 €, alors que la médiane est à 0 €. Alors, ça part un peu technique comme ça. Quand ils vous parlent d'euros, de bénéfices, de sommes, c'est plutôt pour montrer un peu, je pense, pour bien schématiser ce qu'ils veulent dire. En aucun cas, c'est un bénéfice en termes de vente de produits. Hein, c'est pas ça qu'ils veulent dire du tout, je précise. Il existe donc bel et bien pour certains consommateurs de drogue des effets positifs résultant de l'interdiction. Pour eux, la loi agit en sens inverse de l'effet recherché, puisqu'elle constitue non plus une dissuasion, mais une incitation. Tous les individus ne réagissent pas de manière identique et la perception de la loi varie d'un individu à l'autre. Si certains interprètent mal la loi, 86% des consommateurs de cannabis et 58% des consommateurs de cocaïne la perçoivent correctement, puisqu'elle augmente leurs coûts et non leurs bénéfices. Donc cette première enquête ne permet pas d'identifier quel profil de consommateur valorise la transgression, mais elle permet d'écarter le facteur de l'âge. L'analyse contingent des coûts et bénéfices associés à la consommation de drogue permet d'avancer que l'interdiction est globalement mal perçue. Oh, bah ça alors, c'est une trouvaille. Elle ne génère pas de surcoûts significatifs, son effet dissuasif est faible, alors qu'elle crée pour une part des consommateurs un bénéfice conséquent, c'est-à-dire un effet d'incitation. Une enquête à plus grande échelle permettrait d'identifier les caractéristiques socio-économiques des individus qui valorisent la transgression, et l'analyse par groupe de consommateurs permettrait d'élaborer des politiques mieux ciblées. Un autre résultat a émergé de cette enquête sans en être l'objet principal, qui est la consommation ne se comprend pas seulement en termes de coûts et de bénéfices, puisque 51% des consommateurs de cannabis et 65% des consommateurs de cocaïne consomment alors que les coûts sont supérieurs aux bénéfices qu'ils en retirent. Une hypothèse optimiste permet d'espérer que ces consommateurs arrêteront à terme de consommer grâce au creusement de l'écart entre coûts et bénéfices, une forme d'incohérence temporelle expliquant qu'ils n'arrêtent pas tout de suite. Un suivi dans la durée à partir de données de panel permettrait de voir comment l'évolution des coûts et des bénéfices impacte l'arrêt de la consommation. Enfin, une autre approche consiste à considérer les comportements des consommateurs dont les coûts sont supérieurs aux bénéfices comme irrationnels. Sous cet angle, un haut degré d'addiction paraît expliquer, par exemple, pourquoi certains consomment plus que la moyenne alors qu'ils déclarent des bénéfices inférieurs. À côté d'une part consciente, identifiée dans les déclarations des individus, l'addiction est également perceptible lorsque la consommation ne se comprend plus en termes de rapport coût-bénéfice. Dès lors, si l'interdiction légale a pour but d'agir sur les coûts et les bénéfices, et on a vu que cette action en elle-même connaît certaines limites, elle n'a pas beaucoup de prise sur les consommations pour lesquelles la dépendance joue un rôle important. Voilà un peu, je tenais à vous lire cet article quasiment dans son intégralité. Il est assez intéressant. Alors moi, j'ai quand même une ou deux petites remarques à faire. Alors, d'abord sur le fait que la transgression... enfin que l'interdiction serait, pourrait inciter finalement à l'usage. Juste qu'on peut dire quand même, c'est que en France, on nous raconte tellement de bêtises sur le cannabis et sur les drogues depuis plus de 40 ans que ça, c'est déjà quelque chose qui est incitatif. Je suis étonné qu'ils n'en parlent pas. Bon, c'est une première enquête hein, sur un petit échantillon d'une centaine de personnes cocaïne cannabis réunies. Mais voilà, bon, en tout cas, on sait que la communication gouvernementale de l'État, de manière générale, sur la question des drogues est tellement diabolisante, tellement, même mensongère, fausse, quoi, que bon, c'est sûr que ça incite un certain nombre de personnes qui se disent, bon, on me dit tellement de bêtises que c'est peut-être pas si dangereux que ça. Voilà. Ensuite, dernière chose, si je me rappelle bien, c'est à propos du... Oui, voilà, donc c'était ce dernier point au niveau de l'addiction. Oui, effectivement, c'est sûr que l'interdiction pénale sur des personnes qui sont vraiment très addictes et qui sont plus très rationnelles dans leur jugement, forcément, l'effet de la loi n'a pas beaucoup d'effet. Et ou alors si elle a un effet, elle fait peur à ces personnes qui peuvent justement hésiter à demander de l'aide en cas de problème avec leur consommation. On a déjà vu ça par exemple au Royaume-Uni quand ils ont déclassifié le cannabis au milieu des années 2000. On a assisté à une plus grande demande en fait des consommateurs de drogue qui ont été plus nombreux à se rendre dans les hôpitaux, dans les dispositifs d'aide à l'arrêt d'une consommation de substances. Alors ça a été mal interprété, on s'est dit oulala, parce qu'on a déclassifié tout de suite, les gens consomment plus et y a plus d'accidents, alors qu'en fait c'est pas du tout ça la raison, c'est une mauvaise interprétation. Et il faut pas oublier que ce système d'interdiction dans lequel on est dissuade un certain nombre d'usagers qui peuvent rencontrer des problèmes à faire le pas pour aller demander de l'aide pour arrêter parce que c'est interdit et il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être jugés, qui ont peur même d'être fliqués, qu'on les dépiste, savoir s'ils consomment, s'ils ont consommé. Ils ont tout simplement peur de finir en prison. Voilà, allez, on fait une petite pause musicale avec New Hurricane Soul. À tout de suite.
I'm not afraid to die.
C'était New Hurricane Soul. Et le morceau, je ne me rappelle plus du titre. C'est pas grave, on continue notre actu, notre revue de presse de la semaine. À une étude américaine assez intéressante. Alors, on ne sait pas trop comment ça pourrait être en France, mais en tout cas, ça donne quelques informations intéressantes. Alors, que dit cette étude ? Elle dit que globalement, alors c'est une étude de l'Université de l'Illinois, hein, quand même quelque chose de sérieux. Ça dit que globalement, les jeunes Américains, ils fument bien quand ils sont ados. Mais quand ils arrivent à l'âge de la majorité, ils abandonnent le cannabis et se tournent vers l'alcool. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a des spécificités aux États-Unis. La vente d'alcool est légale à partir de 21 ans, donc 3 ans plus tard qu'en France. 3 ans ou plus, non, je crois que c'est 18 ans en France, hein, oui. Donc 21 ans aux États-Unis. Alors du coup, bon, c'est sûr que avant cet âge, bon, bah, les restrictions sont très formellement appliquées. Il est impossible aux Américains d'acheter de l'alcool, pardon, dans des supermarchés ou d'entrer dans un bar, puisqu'il faut tout simplement montrer sa carte d'identité, que globalement c'est quelque chose de plutôt très bien respecté aux États-Unis. Bon, voilà, en France, faudrait faire une étude, mais il semblerait quand même que l'alcool, ce soit une substance qui est utilisée durant tous les âges. Mais c'est vrai qu'avec la stigmatisation liée à l'usage du cannabis, à la diabolisation, la criminalisation, ça incite pas forcément les jeunes Français, ou les moins jeunes en tout cas, à continuer à consommer du cannabis. Et il est fort probable que beaucoup d'entre eux et d'entre elles continuent à consommer de l'alcool, mais délaissent aussi le cannabis. Voilà, après, bon, ça reste à démontrer. On verra peut-être dans quelques années une étude qui nous dira des choses plus ou moins similaires. Ensuite, on va aller en Pologne. En Pologne, où la cause du cannabis thérapeutique avance. Alors, c'est un article du Figaro du 10 juillet dernier, qui nous parle déjà d'un sondage où déjà on apprend que près de 70% des Polonais sont favorables à la légalisation du cannabis utilisé à des fins thérapeutiques, et seulement 18% des personnes interrogées s'opposent à la légalisation de toute forme d'usage du cannabis, thérapeutique ou pas. 14% n'ont pas d'opinion sur cette question. Mais parmi les personnes favorables à la légalisation du cannabis thérapeutique, 42% le souhaitent accessible seulement sur prescription médicale, tandis que 26% se prononcent pour un libre accès. Et selon ces 70% des personnes interrogées, tant que l'alcool nuisible reste légal, il n'y a aucune raison d'interdire le cannabis médical. Voilà une opinion de bon sens. Le Parlement polonais a été saisi d'un projet de loi sur la légalisation de la marijuana médicale la semaine dernière. Donc c'est peu avant les élections législatives prévues à l'automne. Bon, ça va faire son chemin. Alors la Pologne, c'est un pays qui est plutôt classé comme étant conservateur. Mais la France n'est-il pas lui aussi un pays conservateur ? Ou même la question du cannabis médical n'avance pas. On a vu avec le Sativex que c'était bloqué sur une question de prix, que l'administration n'est pas prête à payer le prix que le labo réclame. Bon, on n'est pas forcément moins conservateur qu'eux, de loin de là, voire même sans doute beaucoup plus. Le recours à la marijuana thérapeutique avait fait les gros titres de la presse en Pologne au début de l'année, au moment où un médecin d'un grand hôpital pour enfants avait fait venir des Pays-Bas du cannabis thérapeutique pour traiter un jeune garçon qui souffrait de crises commissiales graves et qui résistait au traitement conventionnel. Et dans le cas de cet enfant, la marijuana s'était révélée efficace. L'opinion publique polonaise a été alertée aussi que par la mise en examen d'un activiste pro-cannabis médical qui en a livré à des personnes malades pour leur permettre d'atténuer les souffrances. Donc voilà, contrairement à ce qui se passe en France et à ce qu'on disait au début de l'émission avec Madame Taubira et Monsieur Valls qui tel un chien de garde veille au grain pour surtout pas qu'on évoque la question d'un changement de loi sur le cannabis en France. En Pologne, le débat semble exister et il y a des parlementaires qui n'hésitent pas à faire des propositions de loi dans le sens d'une légalisation du cannabis thérapeutique. Alors bon, en France, on a Madame Benbassa, mais on a vu ce qui s'est passé avec sa proposition de loi au Sénat au mois de février. Alors, dans l'article du Figaro, on en profite pour rappeler aux lecteurs qu'en Europe, la République tchèque, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne ont déjà légalisé la marijuana médicale. Aux États-Unis, 23 États et la capitale Washington l'ont autorisé. Aussi, en 2013, l'Uruguay est devenu le premier pays au monde à légaliser entièrement le cannabis. Alors, contrairement à ce que dit le Figaro, je ne suis pas certain que la marijuana médicale soit véritablement autorisée, comme c'est dit, de cette manière. Sinon, il aurait fallu rajouter l'Allemagne également, mais c'est loin d'être aussi clair, en fait. Hein. Encore une fois, ça chemine, quoi. Donc, c'est encore pas gagné. Un autre article au niveau du cannabis thérapeutique, alors ça se passe en Angleterre et aux États-Unis. C'est un papa qui s'est battu pour que M. Fred Wolgenstein, c'est le nom du père de Sam, qui est concerné par une forme de d'épilepsie particulièrement aiguë, où on parle dans l'article d'une centaine de crises d'épilepsie par jour, ce qui est absolument incroyable. Donc des crises au cours desquelles le jeune garçon perdait connaissance durant 5 à 20 secondes. C'est comme si vous regardiez un film et qu'il se mettait en pause toutes les 5 minutes, explique le père de Sam. Donc conséquence pour ce petit garçon, de grosses difficultés pour suivre à l'école ou pour faire du sport ou pour avoir une maladie, pour avoir une vie, tout ce qui peut être de plus normal. Donc le papa, il est parti en Angleterre, il a trouvé un peu par hasard, en voyant un magazine américain qui s'appelle Wired, un médicament qui s'appelle l'Epidiolex. Et voilà, il est parti en Angleterre, il en a obtenu, il a fallu qu'il paye près de 120 000 dollars pour couvrir les frais d'obtention du médicament, une fois retourné aux États-Unis, hein, parce qu'en Angleterre ça avait été un peu plus simple. Voilà. Après, le papa du petit garçon dit que c'est pas l'Epidiolex, en l'occurrence, n'est pas un traitement de miracle. Lors d'essais cliniques, la moitié des enfants testés sur 137 au total ont vu la fréquence de leur crise d'épilepsie diminuer de 50%, et 9% d'entre eux n'en ont plus du tout eu. Il y en a quand même une moitié, visiblement, sur qui ça n'a pas eu d'effet du tout. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce petit garçon peut avoir une vie plus normale, puisque on est passé de 100 crises par jour à quelques crises par jour, 5 tout au plus. Donc ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Et dans cet article de Metro News, on nous reparle des difficultés en France pour mettre sur le marché le Sativex. Et on nous rappelle que l'Epidiolex, donc le fameux médicament pour l'épilepsie du petit garçon, lui n'a pas du tout obtenu d'autorisation de mise sur le marché en France. Et l'une des raisons qui est invoquée, c'est que des doutes subsistent quant à ses effets secondaires sur le développement de l'enfant. Je ne sais pas si par contre on s'est posé des questions sur les effets secondaires des médicaments inutiles qui ont été prescrits à ce petit garçon, puisque quand même il faut savoir que la famille a consulté 6 neurologues, 4 hôpitaux dans 4 hôpitaux différents, que près d'une douzaine de médicaments ont été prescrits et donnés à ce petit garçon. Et là, alors, par contre... pour un médicament, on se pose des questions quant aux effets secondaires du cannabidiol, hein, puisqu'il semblerait qu'il n'y ait que du cannabidiol dans cet Epidiolex. Donc, a priori, bon, il y a peut-être des effets secondaires. Je me demande s'ils ne se trompent pas, qu'ils ne pensent pas à un autre cannabinoïde plus connu comme le THC. Bon, on verra. Ensuite, on va s'écouter encore un tout petit peu de musique avant de terminer l'émission. À tout de suite. Allez. vient de s'écouter Cannes à l'instant, Vitamine C. Et pour terminer, on va aller faire un petit tour en Suisse, alémanique, à Zurich, où un chef cuisinier a décidé de faire un plat de l'orge au chanvre des grisons avec mascarpone et légumes d'hiver. Ça semble super bon. Le tout donc préparé par un chef renommé du nom de qui s'appelle Pascal Schmutz. Sauf que ça s'est pas tout à fait prévu, passé comme prévu pour une famille, notamment un adolescent qui avait pris ce plat et qui s'est senti très mal après, a eu des nausées. Alors la famille l'a emmené à l'hôpital, là-bas ils ont fait une analyse toxicologique et ils se sont rendu compte qu'il y avait du THC dans les urines du jeune homme, alors que lui a assuré qu'il n'avait jamais fumé de joint. Alors c'est fâcheux quand même comme problème. On comprend pas trop ce qui s'est passé. Le responsable du restaurant a assuré qu'ils achetaient du chanvre, tout ce qu'il y a de plus légal, sans THC à l'intérieur, puisque la recette ne prévoit que 0,3 grammes de chanvre, ce qui est quand même très peu. Alors même si ça avait été du champ psychotrope, enfin bon, ça paraît quand même assez incroyable. Voilà. Alors, il semblerait que donc le journal et le restaurant aient été un petit peu trompé par ses fournisseurs. Il y a une enquête qui est en cours quand même, mais que le restaurant en question risque une amende. Voilà. C'est vrai qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on donne à ses clients. Par contre, on ne sait pas si une plainte a été déposée contre les producteurs et les agriculteurs. En tout cas, le restaurant, lui, risque d'être pénalisé. Voilà, c'est quand même un peu gênant. Le cannabis qui a jamais été aussi populaire en Belgique, en 2014, 5000 vendeurs de cannabis ont été appréhendés, en augmentation de 25% par rapport à 2012. D'après la police, c'est uniquement puisqu'il y a une très forte activité de la police à Anvers, Bruxelles et Liège. Et que c'est pour ça qu'il y a une augmentation des arrestations. Il semblerait qu'un certain nombre de personnes qui s'étaient plutôt spécialisées dans des vols avec violence, ont changé en fait de casquette et se sont mis à devenir des producteurs de cannabis. Et argumenter cette version, le journal donc l'express.be se réfère à un gang de Bruxelles qui se livrait, paraît-il, au Tiger Kidnapping l'année passée, qui vient de comparaître au tribunal pour possession d'une plantation de cannabis à Laeken, une plantation d'environ 700 plants hein, quand même, qui aurait pu rapporter un bénéfice de 140 000 euros en 10 semaines pour le gang. Et voilà, qu'il est quand même beaucoup moins facile de réaliser un tel profit avec des vols avec violence. Et qu'en outre, les tribunaux se montrent également plus tolérants à l'égard des vendeurs de drogue que des agresseurs. Bon, voilà. Donc c'est une reconversion pour un certain nombre de délinquants qui préfèrent se spécialiser dans le cannabis et qui semblent, voilà, qu'on fait un calcul, qui se disent qu'ils risquent peut-être moins de prison, une plus grande clémence de la part des juges si c'est pour du cannabis. Voilà, bon. Et on va terminer enfin sur cet article de Atlantico.fr, qui est quand même plutôt connu pour être un article dans lequel notamment s'exprime Jean Constantin, un pharmacien assez connu en France pour dire des choses souvent assez approximatives sur le cannabis, mais un grand diabolisateur de la plante. C'est pas ce genre d'article dans Atlantico.fr, mais on nous parle de Amsterdam Université, une école du cannabis au cœur de la Californie. On avait déjà un petit peu parlé de cette université lorsqu'elle avait ouvert il y a quelques années. Et là, en fait, on s'intéresse plus précisément à Madame Sandy Moriarty, dit Aunt Sandy, Tante Sandy, qui donne un cours de cuisine dans une ambiance très décontractée de sa classe, où élèves et professeurs échangent sur la façon de cuisiner le cannabis à des fins médicales. C'est la première école américaine du cannabis business, fondée en 2007 sur le jeu de mots Auckland et Amsterdam. Et elle est spécialisée aussi dans la formation dans l'industrie du cannabis, mais pas que pour faire du business. Elle forme aussi des avocats, tout un tas de gens professionnalisés plutôt dans la question du droit, mais aussi sur la prévention. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. son programme, alors je vous lis, hein, tend à former des experts pour une expansion de l'industrie du cannabis en créant des leaders de l'industrie. Donc c'est plutôt là son principal, principal créneau, mais pas que. Hein. Donc voilà, on nous dit également que Madame Sandy Hansandy est une passionnée par les vertus médicinales de la plante, qu'elle est très enthousiaste quand elle revient sur la loi 215 adoptée en 1996 et légalisant la consommation du cannabis à des fins médicales en Californie. Vous savez, dit-elle, je n'ai jamais fumé pour le fun. Grâce à la loi 215 qui a été signée à San Francisco, nous pouvons utiliser la marijuana comme traitement. Alors, dans l'université, la consommation de la plante est interdite, mais les professeurs ont le droit d'enseigner en utilisant la plante, une plante qu'ils font pousser au sein même de l'établissement. Le proviseur, le docteur Asim Sapal, explique que l'université n'est pas surveillée comme un dispensaire de marijuana médicale pourrait l'être. Et il dit, nous sommes autorisés à enseigner et nous sommes protégés par le premier amendement sur la liberté d'expression. La seule chose que nous dispensons est l'éducation. Nous avons une relation fantastique avec la ville d'Oakland et le service de police de la ville d'Oakland. Voilà. Bien plus qu'une faculté, c'est en quelque sorte une communauté de militants qui servent la cause du cannabis. D'ailleurs, l'université a été partisane de la Measure Z adoptée en 2004 qui soutient la fiscalité et la réglementation de la vente de cannabis chez les adultes. Le proviseur et le professeur de commerce et d'éducation civique disent qu'il est important de promouvoir l'éducation. À partir de l'application de la loi, tout le monde, les entrepreneurs, les médecins, les avocats, les diplômés des universités, seront intéressés à en apprendre davantage. Donc il y aura toujours un besoin d'éduquer le public, et pas seulement en Californie, mais aussi à l'échelle nationale, où la nécessité de l'éducation ne fera qu'augmenter. On nous rappelle que voilà, le marché du cannabis est en pleine expansion, que d'après l'étude Sea Change Strategy, la marijuana aurait rapporté 1,7 milliard de dollars aux États-Unis en 2011, que d'ici deux ans, le marché du cannabis thérapeutique pourrait atteindre les 9 milliards de dollars d'après ArcView, une plateforme d'investissement et d'information sur le cannabis thérapeutique, sur le cannabis. Mais pour l'Oxterdam University, l'éducation prime. Nous croyons et nous appuyons sur l'éducation autant que possible. Il est important que les élèves apprennent à partir d'une institution crédible et motivée par le changement et non le gain financier. Ça paraît un peu contradictoire quand on nous dit qu'on veut former des leaders dans le business, mais encore une fois, apparemment, ça ne semble pas être le seul motif de cette université, qui a d'ailleurs obtenu une renommée internationale depuis 8 ans. Elle accueille chaque année des élèves venant de tous les États-Unis, mais aussi d'Europe. Depuis 2007, environ 20 000 étudiants ont été diplômés de cette université hors du commun. Et le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter chaque année. Nos classes sont généralement bookées deux mois à l'avance cette année, mais cette année, presque tous nos cours ont été réservés, dit le proviseur. Alors, on nous parle de Mustafa, d'origine turque, qui vit aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Il est étudiant et bénévole aussi à l'université Oxterdam. Selon lui, la plante est la réponse à certains maux, qu'ils soient du domaine de la santé ou de l'économie. Je crois, dit-il, en la plante. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Et puis, c'est aussi un bon business. En Californie, par exemple, la marijuana est une des sources de revenus de beaucoup de comtés. Il y a aussi Edouard, qui est belge, et Yannick, qui est français. Pour ces deux, l'Oxterdam Université est une porte ouverte à beaucoup d'opportunités, à une carrière professionnelle de taille. Il n'y a pas d'université, disent-ils, comme celle-ci en Europe. Alors j'ai fait mes valises et je suis venu voir ce que ça donnait. J'aime le professionnalisme et l'ouverture d'esprit qu'il y a ici, nous confie ce cher Edouard. Yannick, quant à lui, met un point d'honneur sur l'éducation. Il dit qu'il faut se former et éduquer des gens plutôt que de continuer à les mettre en prison. Et en Europe, bonne question, en Europe, point d'interrogation. D'après ces deux étudiants, hein, Edouard et Yannick, qui disent que le business du cannabis va s'étendre un peu plus au niveau des États-Unis, où de plus en plus d'États légalisent sa consommation à des fins récréatives. Yannick, qui est français, il dit « En France, le marché est là. Hein, c'est un marché noir pour le moment, mais il faut qu'il soit géré et organisé par l'État, donc autant légaliser. » Une fois diplômés, leur projet est de s'orienter vers le côté médicinal et de changer le mode de consommation en créant de nouvelles recettes comme la sucette au cannabis par exemple. Alors je leur dirais quand même que c'est pas très nouveau et que le cirque a déjà expérimenté la chose en faisant faire des sucettes au cannabis, c'était il y a plus de 15 ans, ils sont même pas à la mode, on y avait pensé avant eux. Ensuite, éduquer et promouvoir les vertus du cannabis, tels sont les enjeux de l'Oxterdam University. La création de formations de ce type est aussi une façon de changer l'image du cannabis qui ne se fume pas uniquement et qui n'est pas réservé qu'aux criminels. Point final. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, cette université du cannabis à Oakland, en Californie, je pense qu'il est assez facile de trouver des informations sur Internet si vous avez envie d'étudier. Apparemment, c'est possible, même si vous n'êtes pas californien ou américain. Voilà, bon, c'est peut-être une bonne idée. En tout cas, pour l'instant, en France, c'est pas à l'ordre du jour, surtout, encore une fois, quand on voit un peu le rappel à l'ordre effectué par Manuel Valls après les propos de Madame Taubira, qui veut réouvrir un débat sur la légalisation du cannabis. Et Monsieur Valls qui lui dit « On peut débattre, mais on a déjà débattu au sein des partis, et l'affaire est close ». Voilà, donc on est encore très loin de tout ça. Vous l'aurez bien compris. Ce soir, pas de chasseur de son. Donc on va s'écouter un dernier petit morceau. On profite de qu'on puisse déborder un tout petit peu, un peu de Noir Désir. À tout de suite pour terminer définitivement cette émission de ce lundi soir. C'était Noir Désir, ici Paris, mais ici c'est le Cirque Lyon. C'est le Cirque Lyon sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Le Cirque Lyon dans l'émission Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs de 21h à 22h. Aujourd'hui 22h10, 11 même, on a un petit peu débordé. Mais on s'en excuse, mais bon, un chasseur de son n'était pas là. On lui a piqué quelques minutes de son émission. Mais voilà, qui part à la chasse perd sa place. Alors avant de terminer définitivement, je vous rappelle que ce samedi 18 juillet à partir de 20h, le Cirque Lyon sera à Arandas dans le Bugey pour le festival Gully Sound. Nous espérons tous vous voir nombreuses et nombreux venir danser et peut-être venir nous voir sur le stand du cirque où nous distribuerons de l'information, des nouveaux flyers, notamment sur le cannabis et la conduite automobile. Un flyer très intéressant. Je vous donne également rendez-vous si vous partez en vacances et que vous allez en direction du Gard à Bagnols-sur-Cèze pour le festival Zion Garden du 20 au 25 juillet prochain. Le Cirque Lyon sera également présent à ce festival reggae pendant toute la semaine du 20 au 25 juillet. Toute l'après-midi, une partie de la nuit, sur plusieurs jours. On en reparlera un petit peu la semaine prochaine. C'est la fin de Cannabis Circus en ce lundi 13 juillet. Voilà, à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Merci d'être au rendez-vous. À la semaine prochaine. But supply.